devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés. Au Poble d'Orsay, à l'Abraham Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Voyez tous les détails à ckrl.qc.ca.
Beauport, Charlebourg, la cité.
Le Carrefour de Québec parle de vous.
Les rivières.
C'est votre portail sur l'actualité locale et communautaire.
Limoilou.
Un média citoyen qui diffuse vos opinions et vos événements. C'est votre espace pour rester à l'affût des grands débats qui vous concernent. Actifs et impliqués, le Carrefour informe et rassemble les gens d'ici.
Ne manquez pas à tous les lundis, 8h45, la chronique de Marie-Claude Boileau, rédactrice en chef du Carrefour de Québec, dans l'émission Avant 9h, tout est possible.
Le Carrefour de Québec, c'est l'hebdomadaire qui vous appartient.
Les rivières.
Consultez le Carrefour de Québec en ligne au carrefourdequebec.com.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias et du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Vous avez développé votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes Cassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
L'étudiant est gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec.
Dès lundi, CKRL vous propose un déjeuner continental. Surveillez notre nouveau menu matinal dès 7h30. Le 19 février, de 13 à 14h, CKRL vous présente Conte de fées, animé par Olivia Vu en direct du Studio P. Au menu, via Skype, des entrevues avec Noémie Forget et Mélanie Watt, la chronique de Tania Masso, libraire chez Pantoute, et une lecture avec la comédienne Isabelle Beaulieu. Des gourmandises seront offertes, une courtoisie de la boîte à pain Café Napoli. Prix de présence en livre à la fin de l'émission. Entrée gratuite. Une invitation de CKRL, de la librairie Pantoute et du Studio P. 280 rue Saint-Joseph. Cultive
tes goûts. Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez Au 7e ciel dès maintenant, et ceci jusqu'à 17h30, une émission qui fait la part belle à toutes les actualités du cinéma et même qui se lance souvent à l'aventure en procédant à des allers-retours entre le passé et le présent du cinéma, comment construire des ponts entre deux rives, entre un avenir du cinéma de plus en plus énigmatique. On se demande où ça s'en va, avec les nouvelles plateformes technologiques, etc. Donc on essaie de faire l'aller et le retour entre une forme de tradition du cinéma, qui est quand même un art très récent, mais même s'il est paradoxal de parler de tradition, je pense qu'on peut l'entendre de plus en plus de cette manière. Et le nouveau cinéma, ou quelque chose qui ressemble à du cinéma, et qui en vient. Donc c'est un peu ce programme-là qui va encore m'animer aujourd'hui au cours de cette émission. D'une part, il va y être question dans la première partie d'un film de Mike Lee, cinéaste donc, qui s'inscrirait dans la tradition du cinéma, tel que je le présentais à l'instant. Donc un cinéaste qu'on a un peu inscrit, je dirais pas hâtivement, mais il faudrait y apporter des réserves ou des nuances dans une sorte de nouveau courant de réalisme social, évidemment pas à ne pas confondre avec un réalisme socialiste. C'est évidemment pas un cinéma dogmatique, mais un type de cinéma britannique, entre autres, assez proche par exemple de celui de Ken Loach, qui tente de faire un portrait des classes populaires et des comportements aussi contemporains que l'on retrouve dans la classe moyenne, chez des gens ordinaires, des gens qui sont apparemment sans histoire, mais sur lesquels Mike Lee s'attarde en essayant de leur donner une consistance dramatique, en essayant de leur accorder l'attention qu'ils méritent. Son dernier film s'appelle Another Year, il en a fait un aussi il y a 2 ans, qui est assez intéressant à mettre en lien avec ce dernier qui s'appelle Happy Go Lucky. Donc je parlerai un petit peu du lien qui se dessine et la cohésion qu'il y a dans l'œuvre de Mike Lee, qui est particulièrement évidente si on prend compte de ces 2 derniers films. Il y a aussi, donc dans la deuxième demi-heure, un petit propos que j'aimerais tenir autour d'un film de Rabah Amer Zaimush, un cinéaste d'origine maghrébine, en tout cas qu'on pourrait dire plutôt un cinéaste français de culture maghrébine, qui a fait un film il y a quelques années, en 2006 en fait, qui s'appelle Blood Number One, un film qui a été présenté hier au Musée de la Civilisation. En fait, j'ai programmé ce film-là, et compte tenu des discussions que j'ai pu avoir avec les spectateurs, entre autres, à la fin du film, j'ai envie d'y revenir un peu. C'est un film qui dessine d'une certaine manière une actualité justement du cinéma qui trouve une résonance géopolitique particulière en ces temps précis où au Proche-Orient et au Maghreb, il y a des tensions politiques très fortes. Ce film est déjà, d'une certaine façon, mais de manière subtile, une forme de sismographe, une sorte de sismographe où propose un état des lieux de ces tensions culturelles, géopolitiques qui abondent dans l'actualité actuelle. L'actualité de ces jours-ci, évidemment, en Tunisie et en Égypte. Ensuite, dans la dernière partie, là, on va se déplacer vers ce que j'ai appelé le presque cinéma pour reprendre une idée qui va avec le programme du mois multi que vous connaissez sans doute si vous êtes un peu adepte des arts technologiques et des représentations théâtrales qui laissent la part belle aux nouveaux médias. Le mois multi 12 cette année, qui se déroule principalement en Méduse, mais pas uniquement, a comme thématique synoptique. Et c'est une thématique qui, évidemment, résonne de manière immédiate avec les modalités du cinéma et la spécificité du cinéma depuis les années 30, c'est-à-dire la mise en relation entre l'image et le son. Et évidemment, Antitube, dont je suis directeur artistique, je le répète, a été sollicité dans ce cadre-là, dans la mesure où il y a toute une production vraiment intéressante, en particulier dans le cinéma expérimental, qui mène un peu dans ces derniers retranchements le travail sur le son, d'une part, le travail sur l'image, d'autre part. Et idéalement, c'était tout le défi de ce programme que j'ai concocté, qui va être présenté mercredi prochain, dès 19h30 au Musée de la Civilisation. Idéalement, une interrelation assez intense, plastique, esthétique, entre un travail sur l'image et un travail sur le son. En particulier, pour ce qui concerne un travail sur le son, une importance accordée à la musique qui passe par, entre autres, la musique afro-américaine ou les musiques aborigènes, et qui implique donc une importance accordée à l'expressivité des instrumentistes et à l'improvisation. Thank you. Avec vous sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, on vient d'entendre une pièce qui s'appelle Body and Soul. C'est un standard du jazz, évidemment, repris ici par deux as du saxophone, Paul Desmond et Jerry Mulligan. Tous les deux font le titre de cet album, Paul Desmond et Jerry Mulligan. Donc, je suggérais tout à l'heure de parler du cinéma de Mike Leigh, cinéaste anglais qui est très prisé depuis les années 90 et dont le dernier film, Another Year, est présentement à l'affiche au Clap. Et un très beau film que je vous suggère évidemment d'aller voir pour vous faire une meilleure idée du travail de Mike Leigh, d'autant que c'est sans doute un de ses meilleurs films de ces dernières années, quoique... je pourrais préciser tantôt que ces deux derniers sont particulièrement intéressants, donc aussi bien Another Year que Happy Go Lucky. Cela dit, ça vaut d'autant plus le coup d'aller voir le film que vous pourrez le voir en copie 35 mm, dans des conditions qui correspondent aux matériaux utilisés par le cinéaste et à la manière dont le film a été pensé pour être projeté, donc pas nécessairement une projection numérique ou une projection qui serait un peu de moins haut de gamme dans la mesure où le film aurait été tourné en vidéo ou en HD, ce qui est moins... Peut-être que déjà, si on tourne en HD, c'est moins... Il y a moins d'exigences quant au fait d'avoir une copie pellicule 35 mm, mais dans ce cas-ci, c'est nécessaire, il me semble. Ça vaut d'autant plus la peine que le film est aussi en version originale sous-titrée français. En fait, pour ma part, je suis toujours prompt à indiquer le fait ou l'anomalie culturelle québécoise, donc de la ville de Québec, qui a des côtés formidables et d'autres moins pour ce qui est du cinéphile, c'est-à-dire le fait de ne pas voir souvent, de ne pas pouvoir voir souvent les films en version originale. Et je pense pas être pointu en suggérant que voir les films doublés, c'est un problème. C'est carrément parfois, dépendamment des conditions dans lesquelles le film est doublé, le point de vue du cinéaste et l'intégrité du jeu des acteurs qui est mise en cause, qui est d'une certaine façon trahi ou travesti, ça serait peut-être mieux dit, dans le meilleur des cas travesti, dans le pire des cas trahi, le doublage est moindrement bâclé. Il y a toute une dimension de l'interprétation et de la finesse du jeu de l'acteur qui risque de foutre le camp. Et il faut avoir en tête aussi qu'évidemment... le doublage, autrefois, disons jusqu'aux années 60, était monnaie courante dans des films lorsqu'ils étaient faits. C'est-à-dire, par exemple, le cinéma italien a été longuement, pendant de longues années encore, au-delà des années 60, doublé, un cinéma de doublé. Fellini tournait ses films et enregistrait les voix après, au moment de la post-production, et sollicitait ses acteurs, ou parfois même d'autres acteurs, pour enregistrer les voix en studio, de manière à ce qu'elles soient synchrone avec l'image, évidemment. Donc, il y a une tradition du doublage dans certaines cinématographies qui s'est perdue quand même au fil du temps, et aujourd'hui, il y a pratiquement seulement un cinéaste comme le russe Alexandre Sokourov qui exige, à cause de peut-être sa vision esthétique très très singulière, ça fait partie de son style, il exige que ses films soient doublés, ça fait partie de son entreprise esthétique, mais c'est vraiment une exception. Donc, voir des films doublés, c'est en partie voir un film, c'est un peu comme voir un film sur un petit écran plat ou quelque chose du genre. On y perd une partie de l'âme du film et du point de vue du cinéaste, même si on en garde quand même quelque chose et même si on peut en saisir une bonne part, c'est pas tout à fait l'intégrité du film qui est préservée lorsqu'on voit un film doublé. Donc c'est d'autant plus important dans le sens que ces films-là, on leur permet de circuler sous-titrés et qu'on prennent la peine d'expliquer aux spectateurs, sans être lourd, sans être nécessairement un pédagogue à outrance, prendre la peine d'expliquer aux spectateurs, à court terme évidemment, c'est mieux de solliciter peut-être de jeunes spectateurs pour leur faire comprendre que l'intégrité d'un film passe aussi par la version originale, plutôt que évidemment des spectateurs qui ont des habitudes sur plusieurs décennies, disons 50 ans et plus, s'ils ont vu des films doublés pendant 20-25 ans, c'est plus difficile de les convaincre. Mais donc, il y a un travail d'éducation à faire de ce niveau-là. Alors voilà pour mon petit moment éditorial. Maintenant, pour parler de Mike Lee, j'aimerais peut-être tout simplement souligner son parcours biographique de manière à donner quelques repères qui me semblent assez importants. Mike Lee n'a pas un parcours typique de Wonder Boy du cinéma contemporain. C'est-à-dire que il n'a pas fait quelques coups magistraux dans des contextes de festivals internationaux qui ont permis de devenir un peu une des coqueluches du cinéma d'auteur européen. Donc, il n'est pas arrivé sur la liste courte de ce qui est le mieux du cinéma d'auteur européen après quelques films. Au contraire, je dis ça parce que c'est souvent ce qui arrive, hein, des cinéastes qui trouvent leur niche assez rapidement et que les cinéphiles apprennent à suivre au fil des productions. Mike Lee, c'est quelqu'un dont on a perdu la trace au cours des années 70, après un premier coup d'essai, un film qui s'appelait Bleak Moments, qui avait quand même gagné le Grand Prix du film à Locarno, entre autres, qui a eu un grand succès critique, un grand succès dans les festivals, mais un flop total, en particulier en Angleterre. Ce qui a fait en sorte que, pendant plusieurs années, Mike Lee s'est confiné à la mise en scène de théâtre. Mike Lee est un metteur en scène et un dramaturge. C'est quelqu'un pour qui la dramaturgie et la composition de ses personnages requièrent autant de travail que la mise en scène, le travail sur l'image, sur la couleur, les enjeux esthétiques du cinéma. Donc, dramaturgie et jeu de l'acteur, c'est essentiel chez lui. Il est revenu par la petite porte, en réalisant un grand nombre de téléfilms jusqu'aux années 80 et jusqu'en 88, où on peut dire qu'il s'agissait là de son vrai retour au cinéma et un début de succès avec un film qui s'appelle High Hopes, en 1988. Et surtout, je dirais, à partir de 93, et bon, là, il commence à enchaîner les films quand même, 88, 91, et en 93, un film qui s'appelle Naked, qui là est devenu, je pense, un classique du cinéma anglais contemporain, et plus largement, je dirais, de la production européenne des deux dernières décennies, prix de la mise en scène et d'interprétation masculine à Cannes. Un film qui faisait le portrait, entre autres, d'un personnage un peu marginal, mis en scène dans son quotidien, que ce soit au travail ou dans la vie courante, de telle sorte que déjà, on avait en tête très clairement, en fait, Mike Lee exprimait très clairement ses partis pris qui vont être ceux des films suivants, c'est-à-dire une représentation de la réalité au quotidien, une représentation aussi de personnages qui ne correspondent pas à de grandes figures héroïques ou à des figures exemplaires. Ils peuvent être exemplaires au sens où ils sont typiques ou représentatifs d'une certaine comportementalité sociale, je pourrais dire. Donc, c'est un travail davantage d'observateur social que de grands récits fictionnels que met en valeur Mike Lee dans ses films. Et en 96, son film qui est une sorte de pierre blanche dans le cinéma européen des années 90, Secret et mensonge, Palme d'or à Cannes. Ensuite, ça déboule, en fait, chaque film est attendu de manière assez fébrile par les critiques et par les spectateurs jusqu'aux années 2000 où, disons, il revient en force avec un film comme Vera Drake qui va gagner le Lion d'or à Venise en 2004, je crois. Et puis ensuite, pour aller rapidement, viennent ses deux derniers films, soit Happy Go Lucky et Another Year. Et on peut dire que Mike Lee... C'est un cinéaste qui met en scène le quotidien, qui met en scène ou en valeur des personnages ordinaires ou de couches populaires de l'Angleterre contemporaine. Mais c'est aussi un cinéaste qui n'est pas si facile d'approche pour les cinéphiles pointus, pour les cinéphiles pointus comme moi. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps à accrocher, en fait c'est tout récent, que j'ai commencé à accrocher au cinéma de Mike Lee, pour des raisons assez simples, c'est-à-dire que j'avais l'impression que son cinéma était quand même, d'une certaine manière, relativement complaisant par rapport aux attentes d'un public populaire qui aime bien se voir comme dans un miroir au cinéma, malgré tout. Donc, autant on peut s'identifier à des figures héroïques lorsqu'on va au cinéma, autant on peut s'amuser de voir tous les petits travers, toutes les petites habitudes, tout le quotidien remis en scène par un cinéaste qui a beaucoup de talent. Et d'une certaine manière, j'avais l'impression qu'il y avait un peu de condescendance ou de de volonté de faire consensus, en fait, dans le cinéma de Mike Lee, dans la mesure où, malgré tout, c'était un cinéaste qui était très aimé d'une bonne frange de la cinéphilie et qui, d'une certaine manière, faisait en sorte que les cinéphiles, tout à coup, pouvaient se désinhiber avec l'idée qu'on peut faire des portraits de gens de milieu populaire sans pour autant que ces gens de milieu populaire deviennent des héros en cours de film. C'est pas nécessaire qu'au bout du film, le dénouement fasse en sorte que la situation ou les conditions dans lesquelles se trouvent les personnages qui parfois socialement sont lamentables, bon, par exemple la pauvreté, l'indigence, la misère sentimentale, que tout ça se règle en fin de film, c'était pas une volonté des fictions de Mike Lee, ça l'est toujours pas. C'est ce qui fait de ses forces. En même temps, disons, autre commentaire que je pouvais me formuler moi-même en voyant les films de Lee, au moins à l'époque de Vérité et mensonge, où son nom était sous toutes les lèvres, donc au milieu des années 90, où moi-même je faisais mes armes en tant que cinéphile. Lorsque Vérité et mensonge est sorti, moi j'y ai accordé une importance assez relative, ou j'y ai accordé finalement assez peu d'importance. Dans la mesure où je considérais que Mike Lee, finalement, à travers son portrait de deux femmes, qui est un peu toujours au bord de la crise d'honneur, mais dans une logique qui n'a rien à voir avec le cinéma d'Almodovar, Pedro Almodovar, cinéaste espagnol, qui, un peu avant Vérité et mensonge de Mike Lee, avait fait un film qui s'appelle Femme au bord de la crise d'honneur, et hystérisait un peu le comportement de ses personnages en faisant un travail sur les couleurs. Donc des couleurs extrêmement claires, extrêmement un goût de l'extravagance, en fait, à travers tout le cinéma d'Almodovar, et parfois même on a l'impression que ces personnages disparaissent derrière une sorte d'excentricité de la mise en scène. C'est pas du tout le cas chez Mike Lee, au contraire, on a l'impression que ces films, et en particulier dans le travail sur les couleurs, viennent simplement amenuiser toute forme de mise en scène qui montrerait un peu des intentions particulières, un espace pour interpréter le comportement des personnages et se placer en surplomb. On a l'impression que Mike Lee veut montrer ses personnages et les aimer jusque dans leur pire revers, sans nécessairement proposer de solutions, de telle sorte que en voyant des fois les comportements ou les dérives de certains de ces personnages, on aurait envie de les brasser et leur dire, envie de les secouer en fait, et de leur dire faites quelque chose pour vous sortir de votre marasme.
1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention de permis du CRTC dans le but de créer une station de radio. Le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973. Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Des après-midi dédiés aux nouveautés d'ici et d'ailleurs au pays. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
À ne pas manquer en février, le cabaret audio du mois multi, le 4. Le brunch animé avec Michel Falardeau et la soirée pour mélomanes avertis mettant en vedette le très attendu Colin Stetson, précédé de Tim Ecker, suivi par This Is Not Design et un DJ set de Junior Boy. Le 5. Le 10, dans le cadre du Off Carnaval de Québec, Max Bérubé and the Patriotic Few. Et le 11, Poirier est invité. Le 12, ce sera le lancement de la compilation Iceberg 2011 avec Stephen Beaupré dans le cadre du Mois Multi. Le prix du cercle.ca.
Avec vous sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, regard sur le cinéma, une heure et demie de discussion à propos du cinéma contemporain, du cinéma qui est encore vivant et qui date pas d'hier, du cinéma qui va se faire et du cinéma qui se fait. Cette semaine, j'ai consacré la première demi-heure de l'émission à parler de Mike Leigh. Je vais continuer encore un peu à en parler, cinéaste anglais assez marquant des 20 dernières années, couronné de nombreux prix. Ses deux derniers films, Happy Go Lucky et Alan Deyer, fonctionnent un peu comme des films jumeaux, à mon avis. C'est une proposition que je fais en toute audace, mais je suis peut-être le seul à prendre la mesure de cette audace ou à y mettre un peu d'emphase parce que je suis dans ma bulle du studio aujourd'hui et j'ai l'impression surprenante que ces deux films se dialoguent, dialoguent bien entre eux. Happy Go Lucky, quelques mots là-dessus. C'est un film qui met en scène, en fait, au cœur de son jeu, une actrice assez formidable qui s'appelle Sally Hawkins. Comme toujours chez Mike Leigh, qui est aussi un homme de théâtre, le travail d'interprétation des acteurs est vraiment un des cœurs vitaux de son travail de cinéaste. Et évidemment, comme c'est un grand observateur des comportements dans des milieux sociaux populaires ou voire même assez défavorisé. Le jeu de l'acteur est fondamental pour mettre de l'avant ce qu'il veut affirmer, véhiculer, exprimer. Et Sally Hawkins joue dans Happy Go Lucky le rôle de Poppy. C'est le nom du personnage. Et c'est une des lubies de Mike Lee de toujours proposer des noms de personnages qui sont pas spécialement réalistes, qui quand même, contrairement à ce qu'on croit, et qui était, comme j'essaie de l'exposer en fait un peu avant la pause, mon préjugé de jeune cinéphile, il y a une distance entre Mike Lee et les personnages qu'il présente. Il y a un travail de mise en scène qui est assez subtil en fait, qui passe par le scénario entre autres, par la composition, l'écriture des caractères, des personnages. Entre autres, l'idée d'affubler ces personnages de noms qui sont pas du tout réalistes, comme Poppy dans le film Happy Go Lucky. Et Mike Lee, en fait, fait quelque chose qui est repris de manière très régulière, en fait, entre autres dans le cinéma de fiction français. J'ai l'impression que le cinéma de fiction français, par exemple les films de Pascal Bélisaire ou même d'Arnaud Desplechin, doivent un peu à Mike Lee le fait de créer des noms de personnages qui ont comme ça une portée romanesque qui met au défi le réalisme, comme si le nom du personnage était déjà un indicateur de son comportement, comme si c'était déjà une manière d'affirmer une couleur particulière. Disons que si le cinéaste était un peintre et qu'il avait un portrait à faire, si il choisissait un bleu pâle, ce serait d'une certaine façon, en introduisant le bleu pâle dans la couleur de la peau du personnage dont il fait le portrait, montrer un personnage qui est un peu lymphatique. On peut dire que à travers le travail de scénariste et de dramaturge de quelqu'un comme Mike Lee, par exemple, nommer les personnages d'une certaine manière est déjà un indicateur de la couleur que le cinéaste veut donner à son caractère, à son personnage. Donc Poppy, c'est un personnage extrêmement optimiste. Pop, on a l'impression l'excellente actrice Sally Hawkins surgit dans chaque plan où elle apparaît. Et c'est quelqu'un d'optimiste, en fait, professeur, disons plutôt institutrice, qui vit seul, célibataire, bon, un personnage typique, disons, féminin, contemporain, qui évolue seul, célibataire, qui va de l'avant et qui est un peu en porte-à-faux avec ses contemporains, si on veut. Et il y a une sorte de fable, en fait, qui traverse tout le film Happy Go Lucky, qui a à voir avec les malentendus liés au comportement de chacun. Et le fait est que Poppy, le personnage de Poppy dans Happy Go Lucky, est une marginale, non pas nécessairement parce qu'elle est célibataire ou parce qu'elle a du mal, justement, à vivre en couple ou à fonctionner selon une sorte de norme, qui, de toute façon, ces années-ci, est de moins en moins, statistiquement, pour la trentaine, est quand même de moins en moins du côté du couple stable, déjà. C'est très clair. Et Poppy illustre ça d'une certaine manière, sauf que son optimisme est tout à fait en porte-à-faux avec des gens qu'elle fréquente qui sont un peu dans la même situation qu'elle et qui, de cette manière, se retrouvent devant plein de malentendus. L'optimisme de Poppy peut être interprété comme une façon de vouloir séduire, entre autres, les personnages masculins avec lesquels elle se trouve, alors que c'est juste consubstantiel à sa personnalité, finalement. Donc, une espèce de joie qui est une joie de vivre à prendre au premier degré, plutôt qu'une joie qui chercherait à attirer l'attention ou solliciter les gens autour d'elle pour les séduire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la séduction dans son comportement, mais du moins, elle vit avec une sorte d'optimisme BA qui est inhérent à sa personnalité, et ça crée plein de quiproquos. Donc c'est intéressant de voir ce jeu que fait tout au long du film Mike Lee sur la marginalité de son personnage, qui prend un peu le contre-pied, en fait, de ce qu'on définit généralement comme une marginalité, c'est-à-dire que la tristesse dans laquelle elle pourrait se retrouver à cause de tous ces malentendus, au contraire, elle y répond à cette tristesse potentielle, disons, simplement par un haussement d'épaules et en continuant à rigoler dans son coin avec une sorte de bonhomie malgré toutes les gaffes et son incapacité, si on veut, jusqu'à un certain point, à fonctionner de manière normale en société. Donc c'est pas une marginalité qui est vécue de manière romantique ou plutôt traditionnel, tel qu'on pourrait le voir généralement, c'est-à-dire que quelqu'un qui est seul, qui réussit à vivre seul pendant de longues années, visiblement fait face à des ratés dans sa vie personnelle, devrait être forcément malheureuse. Ben, Mike Lee montre que c'est pas le cas, et que par ailleurs elle est entourée de gens malheureux qui apparemment pourraient entrer davantage dans cette norme à laquelle la protagoniste principale ne parvient pas à s'insérer. Donc c'est comme ça un tableau, je trouve, de mœurs contemporain qui est assez intéressant, qui est pas mal moins conventionnel et consensuel que l'idée que je me faisais de Mike Lee, disons, dans le regard qu'il portait sur les classes populaires, disons la classe moyenne britannique. C'est un peu un préjugé qui s'est déconstruit pour moi lorsque j'ai vu ce film Happy Go Lucky, qui était assez surprenant, qui d'ailleurs m'a quand même insupporté à l'époque, c'est-à-dire en 2007. Dans la mesure où j'avais malgré tout envie de brasser la protagoniste puis de lui faire comprendre que elle se rendait pas compte que ça allait mal quand même, que sa vie était plutôt bricolée de briques et de broc, et puis demandait un sérieux réajustement pour qu'elle puisse être fonctionnelle. Mais finalement, je suis resté avec ce personnage en tête et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez subtil dans le travail de Mike Lee, qui consistait entre autres à ne pas hésiter à prendre à rebrousse-poil les idées qu'on peut se faire autour de ce qui est séduisant au cinéma ou ce qui ne l'est pas dans le comportement, et en particulier à travers les personnages féminins qu'il met de l'avant, qu'il construit, et les acteurs qui les incarnent. Donc des actrices qui ne sont pas forcément en train de jouer un jeu qui correspondrait à une sorte de canon de la séduction, de la beauté, etc. Donc Mike Lee a quand même cette finesse de ton qui passe entre autres par un portrait assez vif des personnages féminins qui peuplent ses récits.
Thank you.
Et on l'a fait avec vous sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7ème ciel, on vient d'entendre la chanson « Accueille-moi paysage » de Jean-Louis Murat, tirée d'un album qui s'appelle « Taormina », qui date de 2006, et dont on a entendu une autre pièce d'ailleurs, juste avant la pause de 16h30, qui était la chanson « Billy », courte, efficace, assez rock, tandis que « Accueille-moi paysage » va dans le même sens, mais en étant davantage... dans pratiquement la plainte ou la complainte, comme Murat sait très bien le faire souvent. Donc, je dis encore quelques mots sur Mike Lee, simplement pour me concentrer sur son dernier film, Il y en a deux hier, que vous pouvez voir en salle présentement, en particulier au CLAP, version originale, ce serait français. Il y en a deux hier, c'est un autre film qui répond un peu à une donne qui était en place dans Happy Go Lucky, c'est-à-dire l'idée que des comportements... qui ne sont pas des comportements modèles peuvent tout à coup être plus exemplaires dans la société que dépeint Mike Lee, c'est-à-dire une société qui est en fait plus ou moins la classe moyenne en banlieue de Londres ou en région anglaise. Donc, des personnages tout à coup qu'on croyait être simplement banals peuvent avoir l'air de modèles, au moins aux yeux des autres, et la perception qu'on peut avoir des gens à travers la communauté, des gens, c'est-à-dire des personnages à travers la communauté que représente Mike Lee, est essentielle pour comprendre peut-être le projet de ces deux derniers films. Et dans Another Year, sa proposition est assez simple, comme d'habitude d'ailleurs, comme il présente souvent des gens simples, son contenu dramatique demeure assez simple, et c'est justement en y ajoutant une subtilité dans le portrait des relations que tout son travail, son savoir-faire prend sa force, tire sa force. Anna de Yeux, c'est entre autres le portrait d'un couple plus ou moins à la retraite qui vont vivre une autre année de leur vie, comme le dit le titre, une autre année, another year. Et ce couple-là, composé de Tom et Jerry, je le disais tout à l'heure, à quel point Mike Lee joue sur les mots, c'est d'autant plus drôle, joue sur les noms en fait, pour essayer de colorer ou donner une tonalité singulière au personnage qu'il crée et qu'il dépeint. Tom et Jerry, c'est encore évidemment l'occasion de le faire, et pendant, disons, la première demi-heure ou le premier trois quarts d'heure, on entend fréquemment le nom de l'un et de l'autre, de Tom et Jerry. Le nom est évidemment dit à plusieurs reprises au cours de la première partie du film, mais c'est simplement après peut-être trois quarts d'heure qu'une tierce personne souligne le fait que ce nom de couple correspond au nom du chat et de la souris dans le cartoon Tom et Jerry. Donc, une sorte de trivialité qu'il faut peut-être pas prendre au sens premier degré, c'est-à-dire le couple fait de Tom et Jerry n'est pas nécessairement un couple qui ressemble au couple du dessin animé, mais plutôt, c'est une manière peut-être de souligner leur aspect inséparable, donc extrêmement stable en fait. C'est très rassurant quand on pense à un couple de penser à Tom et Jerry, c'est comme une sorte de réminiscence des émissions qui ont bercé notre enfance, et c'est, il me semble, la proposition qu'a fait un peu Mike Lee en nommant ses personnages de cette manière. Et nommer ses personnages, c'est déjà d'une certaine façon donner une couleur à la mise en scène qu'il met en place, et la couleur chez Mike Lee est quand même importante. Je comparais tout à l'heure de manière tout à fait paradoxale le travail de Mike Lee avec celui d'Almodovar, simplement parce que c'est des grands cinéastes qui sont contemporains l'un de l'autre, en montrant à quel point Almodovar exacerbe le travail sur la couleur, à tel point que parfois ses personnages sont ravalés par les couleurs. La couleur a pratiquement plus d'importance ou une valeur aussi importante pour saisir les enjeux esthétiques du film chez Almodovar que les personnages eux-mêmes, ou en tout cas il y a un dialogue constant entre couleur et personnage. Chez Mike Lee, ça se fait plutôt en demi-teinte, mais l'idée étant, dans Another Year, de traverser toute une année avec le couple Tom et Jerry, et allant de saison à saison, la tonalité au niveau des couleurs change forcément, et de telle manière que on est quand même face à un travail extrêmement extrêmement appliqué au niveau esthétique, même si, comme c'est en symbiose avec l'ordre des saisons, il y a quelque chose d'assez ordinaire, d'assez évident, qui coule de source, qui fait en sorte que cette signature-là, dans la mise en scène, qui se place au-delà du travail d'interprétation des acteurs et de la nomination des personnages et de la dramaturgie, est très prégnante, très forte. C'est peut-être justement la subtilité de la mise en scène de Mike Leigh que de rendre cette maîtrise de la mise en scène chez lui pratiquement invisible ou imperceptible parce que ça coule de source. Mais il est tout à fait là du moment qu'on prend un peu de distance avec le film et avec le récit que nous propose Mike Leigh. On ne peut que voir à quel point la composition même de ses plans est travaillée. Maintenant, ce que je pourrais dire aussi pour terminer à propos de ce film, c'est souligner la performance d'une actrice qu'on voit donc dans Another Year, soit celle qui joue le personnage de Mary. Mary qui est un peu le pendant négatif ou le pôle opposé du couple Tom et Jerry, c'est celle qui est un peu plus jeune que ce couple qui approche de la retraite, mais qui ne parvient pas à se caser dans sa vie intime. Et c'est un peu une extrapolation d'un type de personnage que Mike Leigh avait représenté donc dans Happy Go Lucky à travers la figure de Poppy. Et c'est clair à mes yeux que cette fois-ci, le personnage de Mary devient tout à coup le pendant négatif ou sombre de Poppy. Si Poppy, à la fin du film, Happy Go Lucky, n'avait pas rencontré quelqu'un qui était un peu son alter ego, Poppy est un personnage très optimiste, exubérant, quelqu'un qui anime un peu une sorte de feu chez les autres par son énergie qui peut être vue comme une sorte d'énergie libidinale, et c'est là le malentendu, le jeu sur les malentendus que propose Mike Leigh dans Happy Go Lucky. Dans Another Year, cette énergie-là devient complètement vaine lorsqu'incarnée à travers dans le corps, incarnée plutôt par une actrice ou un personnage qui est dans la cinquantaine avancée et qui n'arrive pas à se caser nulle part et se retrouve pratiquement à vivre une sorte de jeunesse tardive qui pourrait l'amener sur la voie de garage. Donc, à partir de là, Mike Leigh joue sur les oppositions, évidemment, comme je le disais, entre le personnage de Mary et le couple formé par Tom et Jerry. Mais à partir de là, on peut dire aussi que le regard que posent Tom et Jerry sur Mary est un peu condescendant, dans la mesure où on n'a pas l'impression que ce couple, finalement assez ordinaire, comme toujours chez Mike Leigh, ne peut pas non plus vraiment servir de modèle, sauf au regard des gens qui sont autour et qui s'en sortent beaucoup plus mal qu'eux, comme Mary, et ou qui ont l'impression qu'ils s'en sortent beaucoup plus mal qu'eux. Donc, il y a toujours la question, finalement, de la perception du regard des uns sur les autres qui rend pratiquement le cinéma de Mike Leigh un peu sartrien ou existentialiste. L'idée du regard sur l'autre est toujours essentielle pour parler un peu de la manière dont on peut se construire un personnage se définit aussi par le regard que les autres vont poser sur soi ou sur ce personnage. Bon, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup évidemment dans le théâtre de Sartre, puis qui a été conceptualisé aussi dans ses travaux de philosophie. On a l'impression que Mike Leigh, homme de théâtre, sans doute influencé par cette manière de construire des personnages, essaie de voir la pertinence contemporaine de ce postulat sartrien, ce qui fait finalement de son cinéma peut-être le cinéma le plus tributaire de la littérature française et théâtrale des années 40 et 50, chose qu'on ne trouve pratiquement plus finalement dans le cinéma français contemporain. Donc il y a comme ça des jeux interculturels assez intéressants où, entre autres, finalement la question de la perception qu'on peut avoir du regard des autres sur soi est un enjeu de fiction contemporaine. Pour finir, je pourrais dire que je m'attendais pas à parler pendant une heure de Mike Leigh, mais que finalement, il y a beaucoup de jus à en sortir. Pour cette question de la perception, c'est davantage le malentendu que la figure du couple modèle qui est mise en scène et exprimée dans Another Year. Donc, pas nécessairement le fossé entre des gens qui sont dans une vie quotidienne stable et des marginaux qui ont du mal, qui ont un mal de vivre, mais plutôt un malentendu fondamental parce que entre ce couple qui a une vie stable et ceux qui sont seuls et qui semblent avoir un mal de vivre, un malentendu fondamental qui a à voir avec le fait qu'il y en a un, il y a un couple qui correspond à un modèle et les autres personnages essaient de s'arrimer tant bien que mal à une forme de modèle qu'ils n'atteignent pas. Et lorsqu'on regarde le modèle que nous propose Mike Lee, donc ce couple vieillissant qui mène une vie assez ordinaire, on voit bien en fait que c'est simplement une question de perception et que ce modèle-là n'a pas vraiment lieu d'être et n'a pas d'emprise réelle sur la fiction qu'on nous présente.
We'll be right back. édition du mois multi du 3 février au 2 mars 2011. 30 jours de festivités pour faire l'expérience des arts multidisciplinaires et électroniques. Des spectacles, des installations, des cabarets audio et du vidéo live. Plus de 125 artistes du Japon, de la Norvège, de la Suisse, de la France et du Canada. Billets en vente à Méduse et sur le réseau Billettech. Le mois multi du 3 février au 2 mars. Une présentation des productions Recto Verso. Information et programmation complète, moismulti.org.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, toujours confondus.
À ne pas manquer en février, le 5, la pop franco de Jean-François Lessard. Le 12, la formation folk indie Around Joshua. Le 19, The Jack Ross Project. Et le 26, le country folk rock de la formation Tire le Coyote.
Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue.
Si vous êtes comme moi, vous trouvez que l'univers des médias du divertissement doit se savourer comme un bon vin. Faut apprendre à recracher. Vous avez vu ce qui se fait de mieux? À ce temps, venez voir ce qui reste. Vous avez développé votre cynisme et votre sens critique en lançant des projectiles sur les pires navets de l'histoire aux projections gratuites de films douteux. Votez pour le film de la semaine sur le site de douteux.org, présenté chaque lundi à la Nîmes Cassé du Faubourg, au 811 rue Saint-Jean, à Québec. Visitez le www.douteux.org pour plus d'infos.
L'étudiant est gratis.
Douteux.org. Si vous avez des questions, ben nous autres avec.
Lundi, CKRL vous propose un déjeuner continental. Surveillez notre nouveau menu matinal dès 7h30.
Guillaume Lafleur avec vous sur les ondes de CKRL. Vous écoutez au 7e ciel, regarde sur le cinéma, dernière demi-heure, après une bonne partie de l'émission finalement consacrée au cinéaste anglais actuel Mike Leigh. On va parler un peu d'un film qui a été présenté hier au Musée de la Civilisation, d'un cinéaste peu connu au Québec qui s'appelle Rabah Amerzheimush. Rabah Amerzheimush, dont le film Blade No. 1 était présenté hier au Musée de la Civilisation, un film qu'il a réalisé en 2006. J'ai envie de dire quelques mots sur son cinéma dans la mesure où il s'éloigne un peu de la production française contemporaine. Déjà, le cinéma de Amerzheimush est particulièrement marqué par l'expérience personnelle du réalisateur qui joue aussi dans ses films. Il a réalisé 3 films jusqu'à présent. C'est un jeune réalisateur qui a commencé en 2001, avec un premier film qui s'appelle Wesh Wesh, qu'est-ce qui se passe, qui a continué donc à travailler après ça en 2006 avec un deuxième long métrage et un troisième film qui s'appelait Dernier Maquis, réalisé il y a à peine 2 ans. Il en tourne présentement un quatrième sur le personnage de Mandrin, qui est un contrebandier fameux de l'ancien régime français. Donc un film historique, tandis que ces 3 films précédents étaient des films très ancré dans l'époque contemporaine. Blade No. 1, c'est aussi un film intéressant aujourd'hui même parce qu'il permet d'offrir une sorte de sismographe, comme je le disais en début d'émission, une sorte d'état des lieux sur la situation sociale ou une certaine situation sociale dans le Maghreb actuel. Le film se déroule uniquement en Algérie. C'est un film qui est en fait une production franco-algérienne. Comme je crois de l'avoir souligné à l'instant, Amerzheimush fait partie de la deuxième génération d'immigrants algériens en France. Et le personnage qu'il incarne dans Blade No. 1 est quelqu'un qui, visiblement, mais c'est assez flou, va quitter la France. On voit pas cette partie-là du film, c'est simplement souligné alors que le personnage est déjà rendu en Algérie. Le personnage va quitter la France pour un peu se faire oublier. Probablement qu'il a commis un crime ou des crimes. La figure du criminel ou du paria est très importante dans le cinéma de Amerzheimush, comme le suggère d'ailleurs le fait qu'il va s'intéresser à la figure de Mandrin dans son prochain film. L'essentiel du portrait que nous propose Plan number one de la culture dans laquelle s'inscrit son personnage principal est vraiment du point de vue finalement de l'Algérie, avec un léger regard extérieur sur cette réalité qui passe évidemment par la distance du personnage par rapport à la communauté dans laquelle il se trouve, communauté qui est en fait sa famille. Il retourne voir sa famille qui vit dans un bled, si on veut. Donc c'est pas un film qui se déroule à Alger ou à Oran, c'est plutôt un portrait des petits milieux ruraux avec leur vie ponctuée de traditions ancestrales qui sont finalement remises en scène de manière régulière, ponctuées aussi d'une certaine attitude grégaire qui fait évidemment toute la critique occidentale des sociétés marquées par un conservatisme radical, pour dire les choses, disons, poliment. Le fait que les conditions prévalant à la vie des femmes mariées ou pas, d'ailleurs, en fait, la condition des femmes en Algérie est très largement... à déplorer, entre autres le fait que du moment que la femme ne suit pas, si elle vit dans un cercle assez traditionnel, ne suit pas un certain nombre de normes, elle risque d'être répudiée de manière radicale par sa communauté, aussi bien par le mari qui l'a pris sous son aile que par la famille d'où elle vient. Et c'est un des éléments bien représentés du film de Zaymesh, cette situation d'une cousine du personnage que joue lui-même Zaymesh, qui se retrouve à la fois répudiée par son mari et rejetée par les siens parce qu'elle a été répudiée par son mari, ce qui fait en sorte qu'elle se retrouve dans une situation absolument inextricable qui va l'amener en HP ou en hôpital psychiatrique. Donc... Il y a cette violence sociale qui est mise à jour sans phare dans le film de Zaymesh, qui fait toute sa valeur, je pense, toute sa nécessité aujourd'hui, toute sa pertinence dans le cinéma contemporain. Le fait est aussi que Zaymesh est peut-être actuellement, et c'est pour ça que j'ai envie de parler un peu de son film aujourd'hui, le seul cinéaste qui rencontre de manière relativement directe, disons, sans trop de fil, avec un sens de la mise en scène certain, mais sans trop de filtre, les conditions relatives soit à la nouvelle génération, deuxième génération d'immigrants maghrébins en France, soit les conditions de vie dans lesquelles se retrouve une partie de la communauté, au moins une partie de la communauté, par exemple algérienne, actuellement en Algérie, et particulièrement la communauté rurale dans Bled Number One, sans filtre, parce que, d'une part, il y a une dimension autobiographique qui traverse l'ensemble du film. On a l'impression, dans Bled Number One, que le projet même de ce film est l'occasion pour le cinéaste-acteur de se replonger dans le monde de ses parents. C'est-à-dire que le projet du film est aussi important pour prendre toute la portée, prendre toute la mesure comme spectateur, que son résultat. En tout cas, la démarche, si on veut, qui a mené à la création du film, aussi bien que le résultat, a une valeur égale. Ça fonctionne ensemble, c'est indissociable. Et en fait, le projet qui anime sans doute Zaymesh est celui de retourner à une sorte d'Algérie qui serait en partie mythique. Donc, il y a aussi une part... presque mythique qui anime le film Bled Number One, qui passe entre autres par une représentation de type sacrificiel avec un bœuf qu'on égorge. En tout cas, c'est montré comme un sacrifice. Peut-être que ce bœuf-là est tué pour être mangé simplement à la suite, mais de la manière dont c'est montré, très cru, en pleine vie rurale, on a l'impression tout à coup de retourner presque aux sources d'une culture ou d'un mode de vie qui a très peu changé au fil des siècles. Donc, un film précieux qui permet de donner un état des lieux assez vif sur l'époque, du moins dans le Maghreb. Et je pourrais terminer en disant que c'est sans doute actuellement, dans la francophonie, le seul cinéaste qui a cette approche, son pendant, peut-être aussi pertinent, mais qui ouvre vers une toute autre perspective et un tout autre public, serait le cinéma d'Abdelatif Kechiche. Des films comme La Graine et le Mulet ou L'Esquive, qui sont beaucoup plus connus, qui ont beaucoup plus circulé au Québec. Et c'est pas pour rien, justement, parce que le cinéma de Kechiche, qui représente beaucoup, évidemment, la communauté de maghrébine de deuxième, voire de troisième génération qui vit en France, s'intéresse surtout à l'idée ou s'attache surtout à l'idée de, d'exprimer à un public qui n'appartient pas à la communauté maghrébine ce qu'il en est de cette réalité. Donc, il y a comme ça une sorte de glacis, de phare, qui FARD, dans le travail de la mise en scène, qui fonctionne avec un certain nombre de conventions de la fiction qu'on connaît bien, plutôt éloignées du documentaire, qui s'adresse avant tout, finalement, à la classe moyenne française, à la France traditionnelle, en guillemets, qui n'est pas issue de génération d'immigrants du Maghreb. Avec vous, dernière partie de l'émission au 7e regard sur le cinéma, je coupe abruptement un extrait d'un concert d'Eric Dolphy en 61 au Five Spot pour Eric Dolphy et Booker Little à la trompette pour parler un peu d'Harry Smith. Et c'est plutôt chouette finalement de penser à parler d'Harry Smith, si je peux me permettre, tout de suite après avoir fait passer un peu d'Eric Dolphy, dans la mesure où Harry Smith est une sorte de figure extraordinaire du cinéma expérimental américain qui est aussi un musicologue, quelqu'un qui était très proche des musiciens de son temps. Je ne sais pas s'il a fréquenté Dolphy, on suppose sans trop s'égarer qu'il a certainement assisté à ses concerts, au moins quelques occasions. Voilà quelqu'un, Harry Smith, qui pouvait faire le lien entre Allen Ginsberg, Bob Dylan et Charlie Parker, dont il était ami dans les trois cas. Smith, c'est quelqu'un qui était d'abord connu donc pour son travail d'ethnomusicologue qui lui a permis d'ailleurs à la fin de sa vie, un peu avant son décès, hein, il est décédé en 91, d'obtenir le Chairman's Merit Award des Grammy pour son travail concernant la fameuse, très très fameuse anthologie de musique folk américaine qui était publiée sur l'étiquette mythique Folkways Records en trois vinyles, édité en 1952. Et qui rassemblait en fait des pièces de folk et de country qui dataient vraiment de 26 entre 1926 et 1932 et qui faisait partie en fait de la collection. Harry Smith était un grand collectionneur de disques et de musique en général, donc ça faisait partie de la collection de 78 tours d'Harry Smith. Et ces disques-là d'une très grande rareté, Smith a permis de les mettre en valeur à travers cette compilation en 52 qui est devenue mythique, qui était en fait déterminante pour quelqu'un comme Dylan au moment où il s'apprêtait à devenir le chanteur que l'on sait. On sait que Dylan a surgi très rapidement comme chanteur, disons, c'est un chanteur pour le moins précoce et dont le succès est immédiat. Et il le doit, entre autres, si on veut, par son ancrage dans la tradition folk. Et ça passe par la connaissance transmise par Harry Smith à travers la connaissance du folk transmise par Harry Smith à travers son anthologie de musique folk américaine. Maintenant, Smith, c'est quelqu'un qui a toujours mis de la musique dans ses films, mais ses films sont à dissocier absolument de son travail de musicologue. En tout cas, à dissocier absolument, faut pas exagérer, là, mais disons que autant il pouvait faire à travers son anthologie un travail d'orfèvre tout à fait dans le ton d'un universitaire ou d'un savant, en s'effaçant derrière le propos qu'il voulait mettre de l'avant ou les productions artistiques qu'il voulait mettre de l'avant. Là, au contraire, c'est sa singularité expressive mêlée de mystique, de surréalisme et de dadaïsme aussi qui va nourrir ses films. Il va influencer toute une génération de cinéastes expérimentaux, en particulier quelqu'un comme Stan Brakhage et aussi quelqu'un comme Kenneth Anger, qui sont peut-être les deux figures marquantes de la contre-culture cinématographique américaine qui s'abreuve au cinéma expérimental bien avant une autre forme de contre-culture ou de contestation de la norme dans le cinéma américain qui passera par le cinéma direct dans les années 60. Et c'est intéressant de dire à cet effet que le cinéma expérimental américain, tout comme le cinéma expérimental québécois, entre autres incarné par Norman McLaren, mais aussi par des cinéastes qui ont commencé à faire leurs armes très jeunes, comme Claude Jutras, arrive avant le cinéma direct, et on peut clairement constater un mouvement d'influence entre une avant-garde littérale, là, tributaire des avant-gardes de la première partie du 20e siècle, et une nouvelle forme de cinématographie qui s'intéresse davantage à une approche de documentariste, évidemment, scientifique, voire d'ethnographe. Ce que par ailleurs était Harry Smith, évidemment, comme musicologue et ethnomusicologue. Donc c'est pour dire à quel point Harry Smith est au confluent de ce qui va faire la grande modernité du cinéma à partir des années 60 et un peu en amont, donc un peu avant. Et c'est un des premiers, entre autres, à faire un cinéma abstrait en mouvement à travers une production extraordinaire qui s'appelle Early Abstractions. Je parle d'Harry Smith parce qu'il va y avoir un film de lui qui va être présenté mercredi prochain au Musée de la Civilisation, un film qui s'appelle Late Superimpositions. A priori, on va présenter Early Abstractions, que j'ai nommé à l'instant, donc une suite, on pourrait dire, de peinture en mouvement abstraite qui résonne à la fois comme une forme de version cinématographiée des tableaux de Paul Klee, matinée d'expressionnisme abstrait, ou même qui annonce la peinture de Rothko, hein, parce que les premières abstractions de Smith datent de la fin des années 30. Donc quelqu'un qui était déjà à l'avant-garde même par rapport à la peinture qui pouvait se faire à la fin des années 30, mais que lui appliquait au cinéma. Donc il était à l'avant-garde du cinéma, et à travers son travail musicographique, cinématographique, mais bon, comme vous voyez, c'est assez complexe, tout est un peu interrelié dans son cas. À travers son travail cinématographique, Smith pouvait très bien suggérer une nouvelle manière de faire de la peinture. Donc c'est quelqu'un qui est au confluent de plusieurs formes d'art qui vont changer la manière de percevoir l'expression au XXe siècle et qui est étonnamment méconnue. Pour le film qu'on va présenter mercredi à la place de Early Abstractions, qui était annoncé initialement, mais la copie est apparemment égarée au Japon. En tout cas, il y a un problème de communication faisant en sorte que la copie venant de New York, qui devait arriver à Québec en début de semaine dernière, est plutôt restée à Tokyo ou quelque part au Japon. Donc ça va être remplacé, Early Abstractions, par Late Superimpositions, pardon. Alors là, j'allais franciser. Donc, superimposition, ce qui veut dire en fait un travail de surimpression. Ce film-là est au moins aussi fascinant que Les Abstractions. Ça mérite d'être aussi un des films préférés d'Harry Smith, qu'il va lui-même citer sans cesse dans sa production ultérieure à Late Superimpositions, qui date de 65. En fait, c'est un film qu'il a fait entre 63 et 65. Encore une fois, la musique joue un rôle très, très important dans son travail. Cette fois-ci, il reprend un enregistrement de Rise and Fall of the City of Mahagoni. Je devrais le dire en allemand parce que c'est une pièce en fait de Brecht et de Kurt Weill qui date de 1930 où on entend, entre autres, la fameuse Alabama Song. Smith utilise un enregistrement de 1956 avec Lotte Lenya, entre autres, donc la chanteuse, la fameuse chanteuse allemande. Il y a un travail comme ça, mixte, j'allais dire bâtard, entre la musique de Brecht et une superposition d'images. C'est là où aussi Smith fait le lien entre le documentaire et la fiction. Il était en train de filmer dans une boucherie pendant des heures, et de manière tout à fait comme un documentariste peut le faire, donc aller voir comment les gens travaillent sur le terrain et simplement documenter leur travail avec une caméra. Donc Smith fait ça, mais ensuite il va filmer les images de la ville de New York, il va se balader un peu partout, prendre des images de paysages, de néons, qui donnent une résonance urbaine à son travail, et il va mettre ça en surimpression avec des images de cet homme qui travaille dans une boucherie. Il va ajouter également une troisième, même quatrième couche d'image, donc une quatrième couche d'image pour renforcer son travail de surimpression avec un travail d'animation, parfois en stop motion, donc c'est-à-dire un travail image par image où le mouvement est créé avec des... comme partout au cinéma, image par image, mais cette fois-ci en déplaçant des objets. Donc des objets se déplacent dans l'écran selon le procédé typique d'animation. En même temps, tout ça est en surimpression avec des images plus documentaires et des images de la ville de New York. Donc c'est un film absolument fascinant, en fait, dans une copie neuve qui va être présentée mercredi, entre autres, dans ce programme qui s'appelle « Battement de cœur du cinéma ». Un programme qui est en deux parties, donc présenté par Antitube dans le cadre du mois multi. C'est un programme qui met de l'avant, en fait, d'une part, le rapport entre le travail sur l'image des cinéastes expérimentaux des origines à nos jours, on travaille sur l'image avec la musique, donc le rythme. Et disons que le sous-titre de cette programmation-là serait couleur, rythme et ligne brisée. Et la plupart des films qui sont présentés dans ce programme-là, reprennent à leur compte les musiques de leur temps. Harry Smith, dans Early Abstractions, avait fait un montage en reprenant, en fait, en plaquant la musique du premier album des Beatles sur ses films abstraits, ce qui donnait une dimension assez, assez étrange à son travail. Mais il y a plusieurs versions de ces films où il utilise des disques différents pour illustrer les mêmes images. Il y a aussi, entre autres, des films d'Étienne O'Leary, cinéaste fascinant québécois avec lequel je vais terminer cette émission. Ensuite, on va passer à Rétrogardiste. Donc, Étienne O'Leary, c'est un cinéaste qui a été assez proche du cinéma d'animation dans les années 60, qui connaissait très bien le cinéma de Norman McLaren. Étienne O'Leary est un cinéaste québécois complètement oublié, en fait, jusqu'à tout récemment. Parce qu'il a eu, entre autres, on peut imputer ça, cet oubli, au fait qu'il a eu une période d'intense production au milieu des années 60, à travers quelques films qui ont bouleversé le visage du cinéma expérimental, en particulier en France, parce qu'il vivait en France à l'époque, et son réseau était plutôt français, même s'il avait des antennes aux États-Unis. Il était ami avec Man Ray, qui adorait ses films, le photographe Man Ray, qui est un des photographes les plus importants de la première moitié du XXe siècle. Il était proche aussi de la Factory, de Warhol, donc une figure absolument extraordinaire et unique dans la production cinématographique québécoise. Donc on peut être pratiquement choqué lorsqu'on constate que ces œuvres ont été oubliées pendant aussi longtemps, d'autant qu'elles se trouvaient finalement dans le fond d'archives de la Cinémathèque québécoise. Mais apparemment, la Cinémathèque n'était elle-même pas tout à fait au courant du contenu de ce fonds. Donc les œuvres étaient en dépôt depuis très longtemps, elles ont été retrouvées. Entre autres, il y a eu aussi une restauration qui a été faite au Centre Georges Pompidou il y a quelques temps. C'est pour dire aussi l'importance. Et O'Leary est quelqu'un qui est très influent dans le cinéma expérimental français parce qu'il a initié un mouvement unique d'avant-garde qui s'appelait Zanzibar autour de cinéastes comme Daniel Pomerol, Jackie Reynal, qui plus tard va avoir un rôle aussi déterminant sur la scène du cinéma d'avant-garde new-yorkais avec Jonas Mekas. Et également quelqu'un comme des cinéastes comme Pierre Clémenti, qui est un acteur évidemment fameux, qui joue dans les films de Buñuel, entre autres, et de Visconti, mais qui était aussi un cinéaste expérimental, où l'usage de la surimpression est au cœur des caractéristiques de son style. Et O'Leary est peut-être le cinéaste qui a le mieux fait la transposition du travail de surimpression propre aux œuvres de Smith dans un nouveau cinéma d'avant-garde plus proche de la culture psychédélique et plus proche d'une contre-culture contestataire. Et à travers ce travail de surimpression, encore une fois, chez O'Leary, il y a une dimension documentaire absolument, absolument extraordinaire. Dans un de ses films qui seront présentés ce mercredi, on peut même voir parmi les seules images en couleur de mai 68. Ça vous embouche un coin, j'espère. J'espère aussi que vous aurez l'occasion de venir voir ce programme. On va se laisser là-dessus. Je vous dis à la semaine prochaine et j'aurai l'occasion peut-être de parler encore d'une partie de ce programme qui va être présenté mercredi dont je n'ai pas eu le temps de parler. À bientôt. Ha ha ha.